Bonsoir, ce lundi dans Cop Paris, votre rendez-vous hebdomadaire avec le PSG sur BFM Paris-Île-de-France, émission spéciale avec un invité d'honneur, la voix du PSG et du Parc des Princes pendant trois décennies. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Michel Montana. Bonsoir Michel.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Tout va bien ?
Très bien, surtout quand j'entends la musique.
Hein. Phil Collins, un immense merci Michel d'être avec nous dans Cop Paris. Matteo Moreau, Jonathan Bensadoun sont là également. Casting parfait pour revenir, Michel, sur votre carrière de speaker au Parc des Princes. 30 ans de souvenirs, d'anecdotes, de joie et d'émotions. Vous allez nous raconter dans quelques instants, dans cette maison, la vôtre et celle de tous les supporters du PSG, le Parc des Princes, qui reste en sursis. Nouvel imbroglio juridique la semaine passée entre la mairie et la région. Cette fois-ci, le PSG va-t-il inéluctablement quitter le Parc des Princes ou sera-t-il remplacé par le Paris FC? C'est la grosse info de cette trêve internationale. Le rachat imminent du PFC par LVMH et Red Bull, le football parisien va-t-il entrer dans une nouvelle ère? Et puis, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens et Omnisport. Cop Paris, c'est parti. Je crois qu'on peut le dire et on est tous d'accord sur ce plateau, une page de l'histoire du PSG s'est tournée le 12 mai dernier. PSG Toulouse, votre dernier match, Michel, en tant que speaker du Parc des Princes. Vous aviez débuté, vous me corrigez si je dis une bêtise, en tant que numéro 2, Joker en 1994, puis vous êtes devenu la voix du Parc en 1998. Première question, toute simple, comment ça va? Comment on fait pour tirer un trait sur 30 ans de speaker au Parc des Princes?
Ça fait drôle.
Ouais.
Il y a un vide. Non, mais... Là, je parlais de la musique, effectivement, en intro. C'est pas mal de petites choses comme ça qui font que, disons que ma vie tournait autour du club, même si j'avais un autre travail à côté, un autre boulot, enfin, je faisais des voix. Et le PSG, en fait, depuis 30 ans, pratiquement dirigeait ma vie. Tout ce que je faisais, c'était en fonction du calendrier. Ouais. Tout ce que je faisais, c'était en fonction du club.
Une à deux fois, mais plutôt deux fois par semaine. Ah, quoique non, il n'y avait que les matchs à domicile.
Oui, plus les dernières saisons, le club me demandait souvent d'animer certaines soirées à l'occasion des matchs de Ligue des Champions à l'extérieur.
Ouais.
Donc, dans les, notamment l'auditorium du parc, où on accueillait des supporters. Et j'adorais, il y avait toujours un invité, un ancien joueur. Et... Donc, du coup, les matchs, certaines animations, ça fait beaucoup d'un coup, mais c'est moi qui suis fautif. Hein, j'ai décidé d'arrêter au bout
comment,
de 30
ans. Comment on fait pour devenir speaker? Il faut être supporter, on passe un casting. Comment ça s'est passé il y a 30 ans?
Alors, je dirais que c'est plus une rencontre. J'étais la voix d'une chaîne qui n'existe plus, qui s'appelle Canal Jimmy, enfin qui s'appelait Canal Jimmy. Et le programmateur musical de cette chaîne était aussi le programmateur musical du Parc des Princes, donc Dédé Gento, paix à lui. Et on a discuté foot, musique et tout. Et du coup, il a parlé de moi en me disant, mais attends, si jamais il y a besoin d'un deuxième speaker, c'était partant. J'ai dit, bah, bien sûr, c'est mon club. J'étais supporter avant de vouloir être speaker. Puisque, bon, speaker, ça peut être juste un boulot. Moi, c'était un petit peu plus que ça, puisque je suis un vrai francilien. Et donc, cette rencontre fait que, après, on m'a présenté le responsable des animations des soirées du parc, donc qui était le directeur marketing à l'époque, Bruno Barbier. Le courant est passé et donc je suis devenu le deuxième speaker.
Et c'est parti pour 30 ans au Parc des Princes. On a énormément de questions à vous poser. Vous, messieurs, nos habituels chroniqueurs également qui ne sont pas là, que l'on a voulu faire participer, Raphaël Chader avait une question pour vous. Écoutez, Michel.
Salut la Team Cop Paris, bonjour Michel, merci encore pour toutes les émotions que tu nous as procurées pendant toutes ces années. J'avais une question avec tous les buts que tu as vus au Parc des Princes. Quel est celui où tu as eu le plus de frissons, tu as vu le Parc des Princes trembler? Vraiment, si tu dois retenir un but, ce serait lequel? Merci à toi encore.
Le but qui vous a donné le plus d'émotions, Michel?
Bah, pour plein de choses, c'est celui face à Barthès, face à Marseille. Enfin, celui de Pedro Miguel Paoletta.
Il y en a eu plusieurs. Alors celui sur la ligne des 6 mètres, le petit lobe.
Celui-là, parce qu'il est juste improbable, ce but. Donc face à Barthez, face à l'OM, donc là, il y a eu d'autres tremblements de terre au moment de certains buts. Mais je garde celui-là, quoi.
Jonathan Bensadoun.
Je découvre qu'on a beaucoup de un destin croisé avec Michel, puisque mon premier match au Parc des Princes en 1998 aussi, un PSG Bastia. Donc ça me fait quelque chose. Et puis le PSG Marseille dont vous parlez, c'est mon premier PSG Marseille au Parc
2004,
des Princes. En 2004. Ouais. Donc mon père ne voulait pas avant pour des questions de sécurité, etc. Donc ça me fait quand même.
C'était beaucoup plus sûr.
Bah, non, mais disons que j'étais un peu plus âgé. Donc c'est pour ça. Donc ça me fait quelque chose. Et surtout que moi, ça fait plus de 20 ans que je suis habitué aussi du Parc des Princes, donc c'est vrai que ça fait quelque chose. Moi, j'avais une question quand même, c'est est-ce que vous avez compté le nombre de matchs que vous avez fait depuis ces 30 ans de carrière? Est-ce que vous avez un chiffre précis?
Alors, pour être très franc, je n'ai pas de chiffre précis. Ouais. Pourquoi? Parce que 4 ou 5 fois, j'ai voulu, parce que tout le monde me demandait.
Bien sûr.
Et en fait, c'est impossible, parce que je ne peux pas revenir en arrière dans la mesure où il y a eu des matchs qui ont eu lieu dans les lieux improbables. Évry-Bondoufle en avant-saison.
Oui, il y a des amicaux aussi.
Ouais, il y a eu plein de. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était impossible de tous les compter. Du coup, à un moment donné, je ne compte pas.
On ne va pas vous demander le nombre de buts, du coup.
Alors là, c'est encore pire. Mais je dirais que ça tourne autour des 700.
Ah ouais, c'est
parce qu'il y a eu deux, trois fois où. Enfin, il y a eu deux fois, notamment, où j'ai partagé le micro. Donc au début, j'étais deuxième speaker avec Thierry Deuchler. Ensuite, avec Jean-Pierre Paoli. Mm. Il y a eu un match avec Max quand je m'étais fait la rupture du tendon d'Achille. Du coup, revenir en arrière, même sur mes pieds, je n'avais pas marqué le nom du speaker.
Et je crois qu'au-delà des matchs, vous en parlez souvent aussi, il y a des moments qui vous ont particulièrement marqué. Ce sont les adieux de Rai, d'Ibrahimovic, de Paoletta, pour ne citer que.
Oui, parce qu'en intro, vous parliez de joie et d'émotion. On est tous pareils autour de ce bureau. On a autant de joie que de moments tristes dont on pourrait se souvenir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les joueurs qui nous ont fait rêver, à un moment donné, sont partis. Mmh. Et on se souvient tous de certains adieux. Celui de Paoletta,
Moi, personnellement, Rai devant le virage d'Auteuil en 1998.
C'est impressionnant. Ouais. Moi, je ne m'attendais pas à le voir craquer au micro. Mmh. Je lui tends le micro. Il s'adresse à Auteuil. Et d'un seul coup, je vois ses lèvres qui commencent à trembler. Ouais. Je me dis non. Il avait une telle aura qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il craque. Mais il y a eu aussi les adieux d'Ibra. Ouais. Il y a eu les adieux de...
Ibra qui reprend le fameux, qui quitte la scène en reprenant le fameux « Ici, c'est Paris », qui est un petit peu votre bébé, votre slogan.
Oui, alors j'ai un souvenir d'Ibra plutôt marrant. C'était lors de la remise de l'Hexagone, le trophée de champion. Il venait d'arriver. Donc il ne parlait pas français... Il a un peu de mal. Mais il avait déjà entendu en fin de saison, justement, on parlait juste en avant émission, le fait que les joueurs étaient sensibles quand on annonçait leur nom en cas de but. Et donc, il avait bien entendu les slogans qui tournaient autour du club. Et donc, il me prend le micro à un moment donné. Donc, tous les joueurs étaient derrière. Le capitaine était déjà monté. Enfin, n'était pas encore monté, je crois. Et j'avais demandé un petit mot à chacun. Et là, il fait un petit speech. Il dit deux, trois mots. Et il termine par... Ici. Et ça, et du coup, il n'avait pas encore l'accent, mais il avait quand même pigé que...
Matteo, tiens, juste un petit mot sur les adieux de Michel en mai dernier, qui ont coïncidé avec les adieux de Kylian Mbappé. Je suis désolé, mais c'est vrai que ce soir-là, vous avez un très bel hommage, Michel, celui de Kylian Mbappé, quand même plus contrasté. Tu l'as vécu?
Ah ouais, mon avis n'a pas changé, Michel. J'étais en plateau pour en parler, en débriefer à la fin de l'année dernière. J'avais dit qu'une page de l'histoire du Paris Saint-Germain s'était tournée et c'était vous. Quant à Kylian Mbappé, c'était manifestement dans l'émotion, dans le ressenti, des adieux ratés, à mon sens. Ratés tant par l'émotion dégagée par le joueur et éclipsés, ce qui peut être surprenant. On parlait tout à l'heure, encore une fois, en avant-émission, de l'impact qu'a un speaker sur les supporters et de l'impact que lui donne le club. On a tendance à penser qu'un joueur va plus marquer les supporters, même s'il joue qu'un an, deux ans, parce qu'il va créer des émotions très fortes. Et on a compris ce soir-là que pas forcément. Le meilleur buteur de l'histoire du club s'est éclipsé, s'est fait voler la vedette, dribblé par le meilleur orateur de l'histoire du club. Donc est-ce que finalement, comment vous l'avez ressenti? Est-ce que vous, alors vous n'allez pas me dire oh, j'étais bien meilleur que Kylian, mais est-ce que vous avez senti ce soir-là que le public
est... Je dribble nettement moins bien que Kylian.
Bon, à l'heure actuelle, ça se débat.
J'ai presque envie de vous dribbler aussi parce que je ne veux pas rentrer dans la polémique.
Bien sûr.
Je vous dis juste une petite anecdote, mais il faut le prendre vraiment au troisième degré. En après-match, à un moment donné, je le croise sur la pelouse et je lui dis, on part en même temps. Il me prend par l'épaule, il me dit, Ouais, c'est les meilleurs qui s'en vont.
Toujours avec son humilité.
Toujours concernant vos rapports, vos liens avec les joueurs, on a une autre petite question d'un autre chroniqueur, c'est François Bessène, on l'écoute.
Bonsoir Michel. Tout d'abord, un grand merci de nous avoir aidé à sublimer nos émotions, nous avoir accompagnés toutes ces années au Parc des Princes, mais également au Stade de France. Une petite question émotion, quels sont les joueurs les plus sympas et surtout ceux avec lesquels vous avez gardé contact après toutes ces années au Parc des Princes? Un grand merci, Michel.
Les joueurs les plus sympas.
C'est dur, mais puisqu'il faut en citer un, ouais. Tout de suite, j'ai presque pas envie de réfléchir, j'ai envie de dire Marquis.
Ouais.
Parce que il a une humilité déjà, une bonté, une bienveillance. Donc j'en ai connu beaucoup d'autres très sympas, mais j'ai envie de dire Marquis. En plus, je ne m'attendais pas lors de la remise de l'Hexagone.
On le voit en photo. C'est...
Du coup, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais.
Vous soulevez l'Hexagone, effectivement.
Oui, parce qu'en fait, les gens de la Ligue, en général, me disent bon, dès que les joueurs sont montés sur le podium, surtout, tu t'éclipses.
Ouais.
Ce que je fais chaque année quand on gagne, pour les photographes, en fait. Et du coup, arrive Marquis, donc il me serre la main en même temps. Il me serre la main, puis je vois, il me lâche pas la main. Puis il me tire. Je me dis, je comprenais pas sur le moment, mais qu'est-ce qu'il me fait là, Marquis, tout, parce que moi, il fallait que j'enchaîne et tout. Et il me tire, et là, je comprends qu'il voulait m'emmener sur le podium pour soulever l'Hexagone. J'étais hyper gêné. Donc, je suis venu bien malgré moi. En plus, il y a Kylian qui m'a pris le micro au même moment pour parler. Et du coup, je suis resté que 2 secondes, quoi. Après coup, je me suis dit, mais j'aurais dû rester.
Rapidement, juste un sujet, je sais, qui est un petit peu compliqué à évoquer pour vous. La succession. Plusieurs matchs depuis le début de saison. Miguel de Rennes qui a été essayé. Est-ce que vous avez changé avec lui? Est-ce que vous lui avez donné des conseils? Le dossier n'est pas encore bouclé, définitivement.
Oui, on a parlé. C'est un ami. Je veux dire, je vais être très franc. J'ai demandé à certaines personnes au club de ne pas me charger.
Ouais, la succession.
De ma succession, entre guillemets. Je m'en vois pas le droit. C'est pas à moi de décider qui va me remplacer. Et puis, je vous cache pas que si jamais il y avait le moins de problèmes, on se dirait, bah voilà, il place ses copains et tout ça, c'est pas du tout le cas. Mais c'est un ami, donc je dirais pas de mal. Je dirais juste que c'est pas évident. Il y a plein de choses, il y a énormément de travail en amont des matchs. Donc, quel que soit celui qui me remplacera, il faut lui laisser un peu de temps.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ouais. Puis la succession est lourde.
Je ne la joue pas politique, hein, mais c'est juste...
Michel Montana, deuxième réponse évitée, Michel.
Cœur du PSG pendant 3 décennies, invité de Cop Paris. On va se retrouver dans quelques instants pour un autre sujet qui vous est cher, qui nous est cher à tous. C'est l'avenir du Parc des Princes. À tout de suite. De retour dans Cop Paris avec notre invité du soir, d'honneur du soir, Michel Montana, speaker du Parc des Princes pendant 30 ans, et mes deux chroniqueurs, Jonathan Ben Sadoun et Matteo Moreau. On va évoquer le futur du Parc des Princes, un dossier qui fâche un petit peu. Énième passe d'armes la semaine passée, alors cette fois-ci entre la mairie et la région. Mais avant cela, Matteo, c'est à toi. Tu voulais, à ta manière, rendre hommage à Michel, la voix du PSG, mais aussi du Parc des Princes.
Évidemment, Michel, je ferai court, mais j'ai une petite histoire à vous raconter. Le 6 février 2010, un petit garçon malvoyant de 9 ans avait la chance de donner un coup d'envoi fictif au Parc des Princes. Lui, qui ne peut pas jouer au foot, si ce n'est faire des passes aveugles bien hasardeuses, a eu la chance d'être invité par le club pour donner un coup d'envoi lors de PSG Lorient. Mais voilà, il était une voix. Il était une voix dans ce stade que personne ne pouvait omettre. Cette voix qui vous accompagne de votre entrée dans le stade jusqu'à votre départ. Cette voix qui unit les générations de joueurs et les générations de supporters. Tu l'as dit. Cette voix qui hurlait pour Ronaldinho avant ma naissance, pour Mevlut quand j'avais 7 ans, pour Zlatan quand j'en avais 14.
Zlatan.
Les émotions. Pour Da Silva Santos Junior quand j'en avais 18 à ma majorité, et encore pour Victor Machado Ferreira l'année dernière. Il était une voix qu'à la télé, on ne distingue que très peu. Mais on l'entend, on s'y habitue, et un soir d'août, on ne l'entend plus, on se dit « Est-ce vraiment un match de Paris ?» Il était une voix... Il était la bouche du parc, les lèvres des joueurs et les cris des supporters, tout à la fois. Mais il était une voix qui a décidé de muer, laissant les supporters parisiens désarmés, comme en amour finalement, lorsque cette terrible impression de mesurer l'importance de l'être aimé lorsqu'il est parti. Il était une voix le 6 février 2010 qui me glissait à l'oreille « Vas-y petit, profite !» Puis au micro « Faites du bruit pour Mathéo atteint d'une maladie génétique qui donne un coup d'envoi ce soir !» Ces mots, Michel, cette voix, elle m'a transmis la plus belle des maladies, celle qui irrigue mon sang de rouge et de bleu depuis que j'ai 9 ans. Il était une voix à qui je n'ai pas pu dire merci, donc aujourd'hui je lui dis merci.
Touché.
Bravo, bravo Mathéo, c'est un très très bel hommage.
Merci Michel. Mathéo. Je rajouterais une chose, c'est incroyable, parce que de temps en temps je recevais des mails, des petits mots sympas. Et un jour, un malvoyant m'a envoyé un mail et je n'avais jamais réalisé en fait. Et pour lui, je représentais énormément.
Le guide.
Et du coup, je n'avais jamais réalisé qu'en fait, parce qu'il y a plusieurs malvoyants quand même qui suivent les matchs au parc. Et il m'a dit, enfin, il y a eu des mots qui m'ont touché et ça me touche d'autant plus, Mathéo. Merci.
Mais moi aussi, je ne pensais pas en l'écrivant.
Voilà. C'était très, très beau. Pour revenir sur la problématique du Parc des Princes, Michel, est-ce que vous imaginez le PSG sans le Parc des Princes, tout simplement?
À titre personnel, non.
Ouais.
Après, je ne vais pas m'immiscer dans le dossier. Je n'ai pas mon mot à dire. Et ça me ferait drôle aussi. Voilà.
C'est un stade qui est quand même particulier. J'ai envie de parler de l'acoustique avec vous. C'est important pour un speaker. On dit toujours aussi que l'acoustique est exceptionnelle au parc.
Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il y a une très bonne sono. Et cette configuration fait qu'on est dans notre cocon et le son va avec. Et c'est vrai que c'est important et j'ai eu la chance d'en bénéficier. Ouais.
Il y a eu justement d'ailleurs une petite période de ce point de vue-là qui a été particulière. Juste une petite parenthèse sur la période Covid. Speaker sans supporter, ça donne quoi?
Alors, ça va vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais il y a eu un match qui m'a marqué, mais c'est, pour moi, ça a été un souvenir incroyable. C'est face à Dortmund.
Ouais.
Parce qu'il faut savoir que je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'UEFA, je ne sais pas. Enfin bref, ils ont décidé qu'il y aurait les speakers. Donc moi, j'étais tout seul en tribune avec, avec ma petite feuille, mon petit conducteur et mon micro. J'entendais toutes les consignes donc des bancs, des deux bancs. Le match, on l'a gagné. Et après, il y a eu cette fête incroyable en dehors du parc. Et moi, j'étais frustré parce que j'étais quand même tributaire donc des consignes de l'UEFA. Donc j'étais vraiment parqué. J'étais tout seul au milieu de rien du tout. Mais je n'ai pas pu aller assister à cette fête, cette communion entre incroyable, les joueurs. Ouais. Et les supporters à l'extérieur. Mais sinon, c'était extraordinaire. En avant-match, à un moment donné, je me suis adressé à eux en espérant qu'ils puissent m'entendre, d'ailleurs. Mais en tout cas, je voulais les remercier parce qu'on les entendait de l'intérieur.
L'avenir du Parc des Princes, Jonathan, bon, l'actualité, c'est ce nouvel imbroglio juridique cette fois-ci. La mairie qui veut attaquer la région, qui propose donc un terrain de 500 hectares au Paris Saint-Germain pour un futur nouveau stade. Est-ce que tu penses qu'il y a encore une issue dans ce dossier? Comment tu te positionnes dans tout ça? Ou est-ce que c'est finalement le sens de l'histoire de voir le PSG déménager?
Écoutez, c'est très particulier parce que, comme on le dit depuis le début de l'émission, il y a beaucoup de souvenirs et Michel en fait partie, évidemment. Il fait partie de l'ADN, je trouve, du Parc des Princes. Et pour quelqu'un qui a connu toute sa vie, c'est toujours particulier. Maintenant, le Paris Saint-Germain grandit. Veut être propriétaire de son propre stade, ce qu'on comprend parfaitement. Il y a des enjeux économiques et pas que. Et derrière, bah, il faut prendre l'exemple. Moi, j'ai en tête, en tout cas, l'exemple d'Arsenal, comme Highbury, qui est un stade absolument mythique en Angleterre. Et ils ont fait le pas de déménager. Maintenant, où? Parce que si c'est à la limite dans Paris ou à proximité, voilà, mais si c'est à 45 minutes du centre de Paris, je pense que c'est un peu plus délicat, mais disons que c'est compliqué. Je pense que la priorité du club,
cette notion de perte d'âme en quelque sorte, d'identité,
bah, je sais pas,
oui, vas-y,
non, mais vas-y, excuse-moi,
tu peux comment dire, en faire abstraction si le Paris Saint-Germain passe dans une nouvelle ère du point de vue économique, du point de vue de la visibilité.
Mais tout le monde est passé par là, en fait. Tottenham et White Hart Lane aussi, j'avais été. Ils ont quitté White Hart Lane. Highbury, je vous ai dit tout à l'heure. L'Atletico qui est au Wanda Metropolitan. Quand on va voir aussi les deux clubs de Milan qui vont quitter San Siro.
Alors, les deux grands clubs espagnols font des travaux, le Real, le Barça.
Ah, et c'est ce que voudrait le PSG, mais sauf qu'ils sont aussi propriétaires de leur stade et Paris ne peut pas. Donc, en fait, c'est pas comme si le PSG était là depuis. En tout cas, les décideurs parisiens depuis 12 ans sont là à dire on veut absolument quitter le Parc des Princes. Leur priorité depuis le jour 1, c'est d'y rester. Mais simplement, si on leur laisse pas être libres de ce qu'ils veulent faire dans leur propre stade, bah, c'est compliqué, quoi. On peut pas leur en vouloir, malheureusement, de vouloir grandir, faire grandir le club, quoi. Donc c'est
Matteo, toi aussi qui es abonné depuis plusieurs années, tu arrives à concevoir le PSG ailleurs qu'au Parc, où tu te dis si le PSG va à Saint-Quentin, va à Montigny, je déchire mon abonnement.
Ah bah, c'est Paris Saint-Germain, là on est Paris Poissy, on va devenir Saint-Quentin Poissy. Bon, ça va commencer un peu compliqué de suivre, mais en revanche, je rejoins. En fait, il y a deux. Pour moi, il y a deux questions. Est-ce que Paris Saint-Germain doit quitter le Parc des Princes prioritairement? Non, si on peut faire des travaux, l'agrandir, avoir un stade de 60 000, 65 000 places, on ne parle pas d'un stade de 90 000 places, pas sûr d'ailleurs que ça aurait forcément un intérêt aujourd'hui pour le club, mais un stade de 65 000, 70 000, si on peut faire des travaux qui le permettent au Parc des Princes et qu'on en ait les propriétaires, et ça fait beaucoup, trop peut-être,
beaucoup de conditions. Si,
ouais.
Oui, évidemment qu'on reste
parce qu'aujourd'hui, la mairie ne veut pas vendre et les travaux sont sur le papier
vraisemblablement
compliqués à opérer.
Je rejoins complètement, je viens sur un point. Il ne faut pas... Il y a des clubs, on parle d'Arsenal. Arsenal, l'Emirates, il est en plein Londres. Waitertain, ils ont reconstruit le stade au même endroit. Enfin, globalement, on a respecté d'une certaine manière la localisation. Ouais. On ne peut pas, et après il y aura la question avec le PFC, mais on ne peut pas partir trop loin de Paris. Et ça, c'est, pour moi, ça doit être, mais c'est pas une hypothèse, une question, c'est un point de non-retour. Si on doit partir trop loin de Paris,
toi, tu ne le suis pas.
Mais je ne suis pas, parce que c'est Paris Saint-Germain, et que quand même des supporters étrangers viennent, bah ils viennent à la Porte Saint-Cloud, qu'ils viennent à l'Hippodrome, qu'ils viennent en banlieue proche, il n'y a pas de problème, c'est le cas de beaucoup de stades. Mais on l'a vu à Bordeaux, alors, sans parler du club, mais ou même à Lyon, des stades qu'on met accessibles qu'en voiture, très loin,
même
en banlieue.
Même à Lille, ou même à Nice.
À Munich aussi, Munich, ouais. C'est assez loin, c'est assez excentré pour le
parfois,
coup.
Parfois, ça empêche, ouais. Ça empêche, parce qu'il y a cette idée de, bah, on aime bien être pas loin du stade, surtout quand vous venez un samedi à 17h, aller voir un PSG-Brest.
Vous avez connu cette problématique à l'époque. Avec le Stade de France fin des années 90, où on entendait dire que le Paris Saint-Germain irait au Stade de France, c'était déjà conflictuel à l'époque. Est-ce que vous seriez imaginé au Stade de France ou à Montigny-le-Bretonneux en tant que speaker?
Non, moi, oui, mais je dirais que le speaker rejoint le supporter. Ouais. Mais pour deux raisons, c'est-à-dire que le supporter n'avait pas envie d'aller au Stade de France parce que voilà, on est tous attachés au Parc des Princes. Et après, pour une autre raison, le speaker, moi, j'aime pas le Stade de France.
Ouais. Ouais.
Je veux dire, le parc, c'est un cocon, je le redis, l'acoustique est extraordinaire. Donc, sur un plan même professionnel, j'avais pas du tout envie d'aller là-bas. Mais là, pour en revenir à Saint-Quentin, puisque c'est quand même le mot qui revient souvent, le nom qui revient souvent, moi, j'ai peur, en fait, qu'on partage d'un coup la région parisienne en deux. Donc, est-ce que le Paris Saint-Germain va devenir, du coup, le club de l'Ouest de Paris?
Ouais.
Avec les supporters de l'Est parisien qui vont se sentir un petit peu rejetés, sans être rejetés volontairement, mais c'est ma seule inquiétude.
Ouais. Est-ce que vous êtes retourné au parc, Michel, depuis ce PSG Toulouse du mois de mai?
Oui, j'étais invité par le club pour la première rencontre. Ça m'a fait drôle parce que j'étais dans le carré VIP, donc je suis pas habitué. Donc à un moment donné, je voulais descendre, mais non, je pouvais pas parce qu'on peut pas. Et mais c'est super, hein, c'était génial. D'ailleurs, il y a pas mal de gens là, qui sont venus me saluer en tribune. Mais ouais, c'est vrai que ma place était sur la pelouse, quoi.
Mais comment on vit justement le match quand on est en bord de terrain comme ça? Les émotions doivent être beaucoup plus fortes parce qu'en plus vous êtes à côté des entraîneurs et du banc, vous êtes proche des joueurs, vous pouvez entendre des choses, vous avez en même temps le public derrière. Nous qui sommes en tribune ou en tribune de presse, on ne peut pas ressentir. C'est un match qui est complètement différent, on le vit complètement différemment à votre place.
Qu'a dit Cristiano Ronaldo à Laurent
Blanc? En 30 ans, en fait, mon plaisir a évolué. Sur ce plan-là, parce qu'au tout début, j'étais sur le banc des délégués, donc les vieux bancs en bois. Et en fait, j'aime pas parce que le terrain, il est un peu bombé. Et du coup, à notre niveau, c'est très dur de voir, par exemple, dans les surfaces de réparation, s'il y a un amas de joueurs, s'il y a un but, c'est pas évident. Et là, depuis pas mal de saisons, on a aménagé un endroit où il y avait 4-5 fauteuils-sièges, où je pouvais être avec mon assistant, etc. Et on était juste au-dessus. Légèrement décalé, juste au-dessus des joueurs donc parisiens, et c'est un endroit. Mais pour moi, c'était l'endroit parfait, vraiment la meilleure vision. Et rien que ça, c'était un plaisir, quoi.
Et les matchs sur le canapé aussi, parce que vous en voyez maintenant à la télévision. Vous nous disiez que vous aviez du mal à vous contenir sur les buts aussi.
Ouais, j'ai envie de gueuler les buts, mais non, mais honnêtement, bon, voilà, je voulais tourner la page pour pas faire la saison de trop. J'aurais pu en faire une ou deux de plus, bien sûr, mais J'ai envie de me servir de votre antenne pour remercier tous les supporters qui m'ont envoyé des petits messages sympas, touchants, comme celui de Matteo. Et c'est vrai que ça me fait drôle, en fait, parce que je me rendais compte, mais sans me rendre compte, ouais, de ce lien indéfectible qu'on a pu nouer ensemble, ouais, l'un pour l'autre. Et rien que ça, j'ai envie de les remercier.
Ouais, je pense que tous les supporters vous remercient. Michel Montana, la voix du PSG du Parc des Princes, était l'invité ce soir de COP Paris. Un immense, immense merci, Michel.
Merci à vous, merci. Et je vous dis merde pour cette saison. Hein.
Ah ouais.
Le mot est bien choisi.
On se dit tous.
Ah ouais. On est quand vous voulez, Michel. Et quant à nous, on va se retrouver dans quelques instants pour évoquer le peut-être futur derby parisien en Ligue 1, PSG-PFC. Est-ce une bonne nouvelle pour le football francilien ? À tout de suite. De retour dans COP Paris avec Matteo Moreau, Jonathan Ben Sadoun, Michel Montana et toute l'émotion qu'il y a avec.
J'ai pris sa place en
plus. Il y avait un coup de jeune, Michel Montana.
C'est peut-être toi le futur.
Oh non. J'ai pas la caisse, vraiment.
Ouais. Bon, les amis, des fois pendant la trêve, on s'ennuie un petit peu. On compte les jours avant la Ligue 1. Mais là, c'est vrai qu'il y a une grosse actu qui est venue égayer cette période de matchs internationaux. Le rachat imminent du PFC par les groupes LVMH et Red Bull. Le groupe LVMH, c'est la famille Arnault, la plus grosse fortune française. Red Bull, on connaît aussi. C'est une galaxie déjà bien implantée dans le football, qui vient de prendre Jürgen Klopp comme chef du football. Votre première réaction, messieurs, lorsque vous avez appris que le PFC allait changer d'air et certainement de dimension?
Bah, c'est un sacré projet. Franchement, je vais être tout à fait honnête, je suis assez enthousiasmé pour la Ligue 1. J'avoue que je suis un amoureux de la Ligue 1 et un projet comme ça, surtout en île, enfin francilien, et je pense que ça peut complètement relancer l'intérêt et le côté attractif de la Ligue 1. Moi, souvent, je me fais ce jeu de me dire s'il y a des repreneurs, quel club ils pourraient reprendre. Alors souvent, je me dis un club comme Nice, parce que c'est la Côte d'Azur, donc c'est international, Bordeaux. Mais c'est vrai que j'avais jamais fait lien.
Mais
Marseille, c'est un contexte un peu compliqué. Oui, mais j'avais jamais pensé au Paris FC. Ouais, et en fait, ça fait tellement sens qu'aujourd'hui, en fait, et je trouve que, bah, en termes d'attractivité, en termes d'image pour la Ligue 1, et donc indirectement pour le Paris Saint-Germain, je pense que c'est. Enfin, en tout cas, si le projet il va à son terme et que c'est ce qu'on imagine, je pense que c'est une très bonne chose.
Le rachat
sera
officialisé, mais les discussions vont avoir lieu et vont se poursuivre la semaine prochaine, Matteo.
Bah, à défaut de tomber dans le mimétisme, je suis vraiment complètement d'accord. C'est une formidable nouvelle pour la Ligue 1. Le Paris FC, en plus, devrait, ou va essayer en tout cas, parce que devrait être un peu tôt dans la saison, mais joue la montée en Ligue 1. Donc, s'ils arrivent en Ligue 1 dès l'année prochaine, on l'a vu.
On va rappeler, tiens, avec Jordan, s'il peut nous envoyer l'image, où en est actuellement le Paris FC avant ce rachat. Donc, il évolue au stade Charletti dans le nord de Paris. Actuellement, vous le disiez, leader de Ligue 2, après avoir déjà joué les barrages hein, plusieurs fois, ils n'étaient pas loin de la montée. L'entraîneur Stéphane Gilly et puis des joueurs, certains joueurs de Ligue 1. On a une équipe qui est quand même déjà bâtie pour jouer la montée. Maxime Lopez, Jean-Philippe Crasso ou encore Timothée Kolodziejczak. L'arrivée de ces nouveaux actionnaires, bon, c'est l'assurance de voir vraisemblablement le PFC en Ligue 1. Où on s'emballe, là, faut quand même le faire, la réussir cette montée-là.
Bah, ils l'ont fait avec le RB Leipzig, qui était parti de la, si je dis pas de bêtises, de la 5e division en Allemagne. Et aujourd'hui, c'est devenu un club européen avec de sacrés joueurs. Et on pense au premier Xavi Simons. Donc, donc moi, là, ils ont entre guillemets qu'un étage à passer. Et si en plus de ça, ils arrivent à faire dès cette saison la montée en Ligue 1, ça pourrait faciliter.
Il y a des projets similaires. Moi, je pense à toute proportion gardée à ce qui peut arriver à Newcastle. Qui, alors évidemment, ils sont en première ligue. Alors, ils vont pas aller gagner le titre chaque année. Mais ils sont montés. Ils ont été rachetés, ils ont fait un projet plutôt cohérent. Aujourd'hui, c'est une équipe qui, assurément, est une équipe du top 8, top 7 anglais. Il se bat contre les meilleurs chaque match et peut même gagner contre le Paris Saint-Germain, c'est largement. Donc, il y a un projet qui peut monter et vite. C'est ça le truc, c'est qu'ils sont en Ligue 2, ils montent l'année prochaine, en deux mercato, ils jouent le top 4.
Et puis, il y a toute cette galaxie, c'est vrai, tu le rappelais derrière, il y a déjà un savoir-faire avec Red Bull, avec Jürgen Klopp qui arrive. Ces clubs, alors les Leipzig.
Attention, ils sont minoritaires quand même, très minoritaires.
Oui, il y a ce savoir-faire, notamment à Salzbourg, on ne prend que des jeunes, qu'on fait progresser, moyenne d'âge de 25 ans. C'est bien pour la Ligue 1, enfin, ça sera peut-être bien pour la Ligue 1. Est-ce que c'est bien pour le PSG? Est-ce que ce futur derby, même pas francilien, parisien, ça vous botte?
Bien sûr.
Évidemment.
Alors, non, mais il faut. Comment dire?
Les Parisiens veulent toujours de la concurrence, mais ont peur quand elle arrive.
C'est exactement ça. C'est bien la compétitivité parce que ça pousse en fait les joueurs à se surpasser, à ce que la Ligue 1 soit une priorité. Parce que là, effectivement, après le premier titre en Ligue 1, j'ai envie de dire, après la Ligue 1, elle est un peu passée au second plan. Mais C'est important d'avoir de la compétitivité, c'est important d'avoir des adversaires forts pour le PSG.
Moi, je parle de la rivalité que ça pourrait créer. Il faut encore l'alimenter, qu'elle se crée, mais d'un vrai. On regarde aujourd'hui les vrais derbies, les vraies rivalités. C'est Lyon-Saint-Etienne, c'est Lens-Lille.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de public au Paris FC. Là, ils sont obligés de mettre des places gratuites à Charletti. Donc, il n'y a pas de public. Donc, en soi, là, c'est tout un public. Et moi, quand j'entends qu'ils veulent reprendre le Parc des Princes, ils sont gentils. Mais il faut le remplir, le parc. Ils ont du mal à faire Charletti.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse identité forte de supporters derrière le PFC.
Et ça restera, à mon sens, on parlait, c'est peut-être le débat qui suit, mais le rapport avec, par exemple, ce qu'il peut y avoir dans Paris-Marseille. Mais c'est incomparable. On peut acheter un club, on peut monter un projet, on ne peut pas acheter une histoire. Aujourd'hui, Manchester City. Manchester United a une rivalité bien plus forte avec Liverpool qu'avec Manchester City. Ça répond à la question. Pourtant, c'est la même ville, pourtant, c'est le bleu, le rouge, etc. Mais la réalité, c'est que c'est Liverpool l'ennemi historique.
Oui, Liverpool-Everton, la rivalité n'est pas.
On n'efface pas une rivalité avec des billets verts. Donc en réalité, il y a.
Je vais poser la question autrement. Dans toutes les grandes capitales européennes, Madrid, Rome, Londres, on en a 3-4, on a ce derby-là. Et certains qui sont très. Très beau, très chaud.
Mais le derby de Madrid est moins important que le Classico en Espagne aujourd'hui. C'est un match important.
London Derby, on est sur quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui manque au Paris Saint-Germain aussi.
Clairement.
Cette rivalité régionale et même au sein même de la ville.
Complètement. Et je pense que quand on voit qui va reprendre le club, c'est-à-dire le groupe Red Bull, qui est un groupe quand même qui a prouvé dans le sport en général sa réussite. Aux côtés de quelqu'un comme Bernard Arnault, je peux vous dire que quand on me dit « Oui, bon, ils vont mettre 100 à 200 millions sur le marché des trans », c'est Bernard Arnault.
Troisième fortune mondiale.
Voilà, c'est quelqu'un quand même d'extrêmement ambitieux aujourd'hui dans les affaires. Et si c'est pour racheter un club, et surtout à Paris, c'est pas pour faire un petit club de Ligue 1, c'est pour faire un club ambitieux. Qui va viser le top 4 à terme et pourquoi pas se qualifier régulièrement en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe et donc être un concurrent au Paris Saint-Germain au titre. Donc,
mais ce que vous disiez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une forme, moi j'y reviens, alors indépendamment de la rivalité, mais de schizophrénie chez les supporters du PSG. C'est-à-dire que quand vous parlez à un supporter de Paris, vous dites mais la Ligue 1, on s'en fout. Même chez les suiveurs, l'année dernière, on prend la Ligue 1, la Coupe de France, demi-finale de Ligue des Champions, ce qui devrait être une saison exceptionnelle, a été presque, par certains, pas par tout le monde, banalisé dans une espèce de déception d'avoir perdu contre Dortmund, mais on banalise un peu le tout. Et pour autant, on se plaint de ça, mais on se plaint aussi, là, cette année, moi, après la défaite contre Arsenal, j'ai le souvenir, on était tous les deux à Londres, d'un supporter qui vient me voir, qui me dit « Cette année, le titre, c'est fini, Marseille, ils vont être premiers, si on termine top 3, c'est pas mal. » Vous voyez, c'est l'espèce de on se mord là. Non, mais chaque année, c'est pareil. Après Newcastle, c'était pareil. Puis en fait, à la fin, on gagne, et puis tout va bien. Et c'est schizophrénique. Oui, moi, je veux aller au Parc des Princes le vendredi, voir mon PSG Rennes à 21h, en stressant jusqu'au bout pour savoir si on va gagner. Parce que cette victoire nous permet de recoller à égalité avec le PSG.
Regarde ce qu'on pense, le PSG, la voix du club, la voix officielle, celle de Nasser El Khelaifi.
C'est le copain de Bernard.
Alors qu'il s'entend effectivement très bien avec la famille Arnaud, il y en a qui se trouvent en loge, dans la corbeille, mais il juge, je cite, que c'est une super nouvelle, que c'est fantastique pour Paris, le foot français, que cela va apporter émulation, tout ce que vous venez de dire, et concurrence au plus haut niveau du foot dans la capitale. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, à terme, et là on est en pleine foot fiction, qu'à un moment ou à un autre, il y a un petit schisme que les supporters du Paris FC, que le PFC arrive à siphonner un petit peu le contingent des supporters du PSG ?
C'est le jeu. Bah voilà, tout simplement.
Et on pourra se moquer d'eux jusqu'au bout en disant que c'est des faux fans, etc.
C'est le jeu. Il y a ça partout. Comme on le disait tout à l'heure, il y a ça aussi du côté de Manchester. Manchester, c'est principalement Manchester United, mais il y a aussi des supporters de City. Alors moi, je suis beaucoup les sports américains, donc c'est pareil entre les Los Angeles Lakers et les Clippers, entre les Brooklyn Nets et les New York Knicks. C'est comme ça, c'est des rivalités avec un club ou une franchise forte. Et derrière, il y a le petit qui essaye de concurrencer. Bon, ça va être pareil. Et ça va être une autre concurrence, ça va être autre chose qu'on va découvrir. Et c'est très bien.
Je rajoute une éventuelle condition, et tu as effleuré le sujet. Si le Paris FC, on est encore en pleine fiction, venait à déménager au Parc des Princes. Le PSG quitte, construit son nouveau stade. La mairie a sa solution, le PFC... Là, on peut avoir...
Mais j'y crois pas une seule seconde. Parce que pour le même argument pour lequel j'étais contre le Stade de France, on ne crée pas une identité dans un club... En reprenant un stade qu'on a déjà une. On ne va pas au Stade de France. C'est-à-dire, en gros, on va inscrire dans le même livre.
C'est philosophique, mais
non, c'est pas philosophique. Qui m'écoute un petit peu. Mais moi, Hidalgo, elle va m'appeler.
La mairie de Paris.
Oui, mais c'est pas la mairie de Paris dont je parle, moi. C'est le Paris FC. Je pense que ce serait une erreur. Et je pense que.
Et le groupe. Et Charletti.
Mais qu'ils aillent à Jean-Bouin. Mais qu'ils aillent quelque part. Mais on ne reprend pas un stade. Comment on peut. Alors, déjà, on parlait des supporters. Mais ou alors, c'est qu'ils assument de vouloir siphonner une partie du PSG, de créer un PSG 2.0. Mais on ne crée pas une identité en volant celle d'un autre. Jamais. Ça ne marche pas.
C'est du quasi jamais vu. pas de club.
Voilà. Il y a eu Maître Racing qui a fait oui, ça et qui jouait au Parc des Princes et ça n'a pas marché.
Exactement. Ça n'a pas marché.
Ils sont arrivés avec beaucoup de moyens.
Exactement.
Arthur Georges, Luis Fernandez à l'époque, ça n'a pas fonctionné, pas longtemps en tous les cas.
Ça n'a pas marché. Moi, je pense qu'ils auront leur stade et qu'ils vont créer leur projet et on ne va pas créer de rivalité artificielle. Mais s'ils viennent au Parc des Princes, ils l'auront peut-être.
Jean-Brun, tu auras des problématiques quand même de.
C'est clair.
Alors de pelouse et ouais. De sécurité aussi, ouais. Parce que plus proche l'un de l'autre.
Non, mais parce que tu fais comme à Milan ou à Madrid, enfin, ouais. Milan, c'est pas le choix, mais tu joues pas les mêmes semaines.
Une alternance tu joues semaine. Dans le même stade.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, par exemple, dans les stades qui sont très proches ou à Milan, quand c'est les mêmes stades,
oui,
ils alternent une semaine sur deux et on jouera pas en même temps. PFC, enfin voilà.
Si je résume avant le calendrier, ça vous chauffe, ça vous botte, le PFC, ouais, futur pensionnaire et éventuel cadre de Ligue.
Ah, j'aimerais vraiment, moi je vais vraiment suivre de près ce dossier. Vraiment, c'est un dossier qui me. Alors là, j'avoue, c'est l'amateur, le fan de foot qui parle. Franchement, ce dossier me passionne.
Ça fait consensus, j'ai l'impression, l'arrivée.
Oui, mais parce qu'on veut réellement une Ligue 1 compétitive et par exemple, moi, Marseille, évidemment qu'on veut les battre, mais moi, j'espère, et comme Monaco cette année, qu'on aura une lutte. Oui, mais parce que Paris fait 5 victoires, 1 nul, 5 victoires, 2 nuls, c'est pas déshonorant. Le problème, c'est que les équipes derrière faisaient 3 défaites, 2 défaites. Là, on a des clubs qui tiennent pour l'instant. Et ben, je veux dire, je leur souhaite de continuer, pas trop longtemps, mais de continuer.
Allez, en attendant de voir le futur derby parisien, on va jeter un coup d'œil au calendrier qui attend le PSG. PSG Strasbourg, samedi prochain, 21h au Parc des Princes. PSG, PSV Eindhoven, c'est dans une semaine déjà. Faudra le gagner, celui-là, 3e journée de Ligue des Champions. Et puis, ce qui reste pour l'instant, messieurs, oui, le choc de la Ligue 1. Marseille-PSG, 27 octobre, Stade Vélodrome. On passe tout de suite à l'Omnisport avec les résultats du week-end de vos clubs franciliens avec Quentin Grébel.
Paris Basket relève la tête après son second revers en Euroleague à Milan. Hier, les Parisiens sont venus à bout de Dijon dans un match serré. Mené de 5 points au milieu du deuxième quart, les joueurs de la capitale ont pu compter sur Nadir Hiffi. 26 points pour le meneur français, la quatrième meilleure performance de sa carrière en Betclic Elite. 97-83 score final, troisième succès de rang pour le Paris Basket en championnat. En rugby, lourd revers du Stade français. À Lyon, les soldats roses ont été surclassés. 5 essais concédés, une seule pénalité inscrite par Carbonel et une défaite 35-3. La quatrième cette saison en 6 journées de top 14. Au classement, le Stade français est avant-dernier et affrontera Castres ce samedi. Le PSG Handball s'offre une balade de santé dans le derby francilien. Opposé à Créteil, avant-dernier, Prandi et les siens prennent rapidement les devants et ne les lâcheront pas. Victoire tranquille, 45-31, la sixième en autant de rencontres en championnat cette saison. Prochain match, jeudi soir en Ligue des Champions face à Bucarest. Un quasi-record et des Français qui brillent sur les 20 km de Paris. À 24 ans, Manon Trapp a remporté la course féminine en 1h, 4 minutes et 44 secondes, le deuxième meilleur chrono de l'histoire de l'épreuve. Chez les hommes, la bataille s'est poursuivie jusqu'au dernier mètre, mais au sprint, c'est l'Éthiopien Ayimro Yele qui décroche l'or en 58 minutes et 3 secondes, juste devant le Lorrain Jan Schrub. Et parmi les 31 000 participants, Valentin, atteint de paralysie cérébrale, l'adolescent de 17 ans a parcouru 200 mètres du parcours, aidé par son exosquelette avec lequel il s'entraîne depuis 3 ans.
Comme Paris, c'est déjà fini, je vous donne rapidement la faute. 3 Parisiens titulaires ce soir avec l'équipe de France. Barcola, Dembélé, Kolo Muani. Voilà.
Waouh. C'est fou, hein.
C'est pour qui ça le.
Ah, j'adore. Je répondrai simplement que j'apprécie beaucoup Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.
Kolo Muani marque toujours en équipe de France, sache-le.
Ah, il l'a pas marqué contre l'incroyable et l'impitoyable Israël la semaine dernière.
Bon, c'est les fou, amis. Je regarderai pas une seule seconde ce match non plus.
Mais tu vas avoir des buts parisiens de partout.
Oh, bah, vraiment,
je serais pas si confiant, mais.
La Magic France, les amis, c'est ce soir. Merci à vous. On remercie encore une fois Michel Montana, Jordan Le Sueur présent à l'édition. Je vous rappelle que l'émission Cop Paris est disponible en replay, en podcast sur l'appli RMC BFM Play, sur le site web BFM Paris et sur le TikTok de l'émission. Très belle semaine à tous. Ciao, ciao.